Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, notre docteur en neurosciences, notre experte, celle qui vous explique le fonctionnement du cerveau, de ses méandres, et c'est compliqué. Alors, grâce à vous, parfois ça a l'air simple, mais on se dit, oui, ça mérite quelques explications. Et on est reparti pour une nouvelle saison. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui commence, j'allais dire, sur les chapeaux de roue.
Ouais, oui, vous avez vu toutes ces nouveautés, c'est incroyable. On en reparlera évidemment et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de NutriRadio.fr pour découvrir cette nouvelle grille avec encore une fois une montée en expertise, pas en prononciation de ma part, mais en expertise incroyable. Et forcément, on devait continuer avec Sally Morès parce que s'il y a une émission, j'ai l'impression qu'on fera jamais le tour aussi, c'est bien une émission sur la neuroscience, les neurosciences et tout ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. On va, j'imagine, à un moment donné aussi évoquer cette histoire de... Salut, j'aimerais qu'on fasse ça, Célia. Intelligence artificielle, cerveau, machin, on a le temps, hein. Mais ça c'est des sujets qui vont arriver, j'imagine. Mais avant d'arriver à l'intelligence artificielle, Célia, on va évoquer un sujet qui est passionnant, parce que vous, en plus, vous êtes une experte, enfin, vous adorez l'art, vous vous intéressez à la mythologie. Et vous dites, tiens, je vais faire un sujet sur la mythologie et la psychanalyse. Quel lien ? Ça peut paraître quelque chose d'incroyable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, je dois vous demander, comment se sont passées vos vacances ?
Alors, les vacances se sont évidemment plutôt bien passées, puisque j'étais au soleil. Donc, ça fait toujours du bien. C'est le plein de vitamine D pour toute l'année, hein, parce qu'à Paris, c'est pas ça. C'est pas tout le temps ça. Il pleut plus qu'il ne fait soleil.
Mais non.
Et le voyage habituel tous les 2 ans à Venise pour la Biennale, parce que, comme vous l'avez dit, je suis une passionnée d'art. C'est dans mes gènes, hein, par ma mère, par mon père, etc. Ce qui fait que ça fait toujours plaisir d'abord de revisiter cette ville que j'adore. Pour moi, c'est probablement la plus belle ville au monde. Et en plus, pour la Biennale, découvrir ce que proposent les pays en art. Alors, on aime, on n'aime pas. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien, évidemment, comme d'habitude. Mais effectivement, ce fut un grand, grand plaisir. Et sans oublier aussi Vérone, parce que c'est aussi une ville que j'aime beaucoup, avec l'opéra.
Voilà. On voyage en Italie avec Célia. Bon, vous êtes d'attaque. On est en présentiel, là. Souvent, on est en distanciel. Moi, je suis très content parce que là, vous êtes descendu dans le sud, et donc on a un petit studio Nutri Radio. Bon, c'est pas très grand, mais c'est sympa.
Ah, c'est très sympa, c'est mieux le présentiel que le distanciel, serait-ce que pour le matériel, le micro, l'enregistrement. Voilà. Les problèmes techniques, que là, il n'y aura pas, je l'espère.
Parce que Célia est une grande stressée. On a besoin, quand on fait des émissions en distanciel, d'une bonne connexion, et parfois, c'est. On sait pas, des fois, il n'y a pas de connexion, et du coup, ça stresse tout le monde, mais là, on est bien. Et je peux vous dire que ça va être très intéressant, je le dis à chaque fois, mais je suis là, en plus, j'ai votre petit programme sous les yeux, donc j'ai hâte d'en savoir plus, notamment le lien entre la mythologie et la psychanalyse.
Alors, totalement, hein, Fabrice. Donc, c'est vrai que je me suis intéressée à ce lien-là, qui au départ n'est pas des plus marquants, c'est-à-dire pourquoi s'y intéresser. Justement, vous disiez que j'aimais l'art, et j'ai ma mère donc, qui est commissaire d'exposition, qui a monté une exposition sur mythologie, qui a lieu d'ailleurs pour les sudistes, je le dis comme ça, en passant à Saint-Raphaël jusqu'au 12 octobre. Et donc, effectivement, je me suis dit, il doit y avoir des liens, et puis on parle beaucoup en psychanalyse du complexe d'Oedipe, de ce genre de choses. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à creuser entre nos deux mondes. Parce que finalement, l'art, les neurosciences ne sont pas si éloignées que ça. Donc de fait, je me suis intéressée au lien entre la psychanalyse et la mythologie. Et il y en a beaucoup plus que l'on ne croit. D'abord, ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que les psychanalystes s'inspirent des récits mythologiques pour étayer, pour expliquer leurs théories. Pourquoi ? Parce que les théories psychanalytiques, généralement, que ce soit Freud, Carl Jung, etc., sont généralement, on va le dire, incompréhensibles, très philosophiques. À part si on a fait des études en psychanalyse, à part si on est psychanalyste ou qu'on a fait des études en philosophie, c'est vrai que ce sont des concepts abstraits. Et tout ce qui est abstrait est dur à comprendre. Donc, ce que font les psychanalystes, c'est qu'ils récupèrent les récits mythologiques et ils leur font dire ce qu'ils ont envie de leur faire dire, c'est-à-dire ça va leur permettre de détailler, d'exprimer, de s'expliquer, avec des exemples. Alors évidemment, en deuxième partie d'émission, on parlera notamment de Deep et d'Electre, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Deep lorsqu'on parle de mythologie et de psychanalyse.
Alors ça veut dire que c'est de l'interprétation en fait, tout simplement. C'est pas de la science exacte, c'est une interprétation.
Oui, alors psychanalyse, pour moi, en tous les cas, en tant que psychologue cognitiviste, enfin en tous les cas, docteur en neurosciences du côté de la psychologie cognitive, c'est une sorte d'interprétation. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent vraiment ces mythes à des fins expliquer leur théorie psychanalytique. Peut-être qu'un psychanalyste ou quelqu'un qui a fait des études en psychanalyse pourrait expliquer cela différemment. Mais ce qu'il faut savoir, justement, dans tout ce qui est psychanalyse, c'est qu'il n'y a pas de moyen de prouver quoi que ce soit. On ne peut pas prouver que ça n'existe pas, mais on ne peut pas prouver que ça existe non plus par des expérimentations, j'allais dire, physiques, pragmatiques. Lorsqu'on étudie la mémoire, il suffit de dire bah, les personnes âgées ont une moins bonne mémoire que les personnes jeunes. Il suffit de faire retenir des mots aux personnes âgées, aux personnes jeunes. On regarde les scores et là, on sait que bah, s'il y a une différence de score et que la différence est significative, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Ce qui n'est pas le cas dans la psychanalyse, comme dans la théologie, c'est ce genre d'études-là qui fait que finalement, c'est de l'abstrait. Donc, il n'y a rien qui prouve dans un sens et il n'y a rien qui prouve le contraire.
Ok, soit c'est du génie, soit c'est n'importe quoi. Okay.
Non, je... non, parce qu'en fait, en fait, on se base encore, même nous, les cognitivistes, même si on est totalement opposés, c'est même pas le jour et la nuit entre les cognitivistes et les psychanalystes, parce que le jour et la nuit, c'est complémentaire. Là, on n'est carrément pas du tout sur la même longueur d'onde, mais quand même, on ne peut pas refuter les théories explicatives de Freud. Bon, c'est bien qu'en ce moment, parfois, c'est un petit peu décrié, mais enfin, on ne peut pas dire que les oublier totalement. Et c'est vrai que c'est important parce que, notamment, il y a le mythe d'Icare. Je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler.
Alors, le mythe d'Icare, honnêtement, je pense que ça résonne dans la tête de beaucoup, mais si vous pouvez nous faire un petit refresh, ce serait pas mal.
Alors, Icare qui se brûle les ailes.
Ah oui,
on y reviendra évidemment tout à l'heure parce que ça va nous permettre aussi d'expliquer certains comportements et sentiments humains. Mais Icare qui se brûle les ailes. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Icare paye, et c'est une théorie psychanalytique, paye les erreurs de son père. Pourquoi ? Dédale, son père qui a fait le fameux labyrinthe pour emprisonner le Minotaure, a été enfermé avec son fils dans le labyrinthe par le roi Minos. Pourquoi ? Parce que la femme de Minos, Pasiphae, est tombée amoureuse du taureau. Le taureau blanc qu'aurait dû tuer Minos et qu'il ne l'a pas fait. Donc Poséidon est rentré dans une colère noire et a fait tomber Pasiphae amoureuse du taureau. Sauf que donc Minos demande à Dédale de construire ce labyrinthe. Sauf que Minos apprend que Dédale était au courant des amours illégitimes de sa femme. Donc en colère, il enferme Dédale et son fils, qui lui n'y est strictement pour rien, dans le fameux labyrinthe. Et il a des théories parfois psychanalytique, comment les psychanalystes expliquent et se servent de ce mythe d'Icare, ça va être de dire les erreurs du passé, les erreurs cachées, finalement, reviennent comme un boomerang, on finit par les payer et c'est peut-être pire encore que de les affronter. Et c'est ça qui va être important de se dire, et c'est vrai que dans certaines familles, on le voit quand il y a des secrets de famille, c'est vrai que ça peut faire mal, les gens peuvent se sentir mal sans savoir d'où ça vient, c'est pour ça que là, ça dépasse mes compétences de cognitiviste, puisqu'on est sur un côté beaucoup plus abstrait, quelque chose de non palpable, mais qu'on ne peut pas non plus occulter et qui fait que ça peut expliquer effectivement le comportement de certaines personnes ou la lourdeur qu'il peut y avoir dans certaines familles, le poids sur les épaules que certaines personnes peuvent ressentir. Donc c'est en ça qu'il y a un lien entre mythologie et psychanalyse. Les psychanalystes vont se servir de ces mythes pour expliquer en fait les problèmes que nous, en tant qu'humains, nous allons rencontrer sur le plan finalement psychologique ou expliquer certains de nos comportements.
Merci beaucoup. Et là, vous faisiez aussi le lien avec la psychogénéalogie. On salue Caroline Doruny si elle écoute cette émission. Bien évidemment, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour revenir sur l'exemple dont vous vouliez également nous parler de Oedipe et Electre. C'est juste après ceci.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
La suite de cette émission, la sphère neuro qui dit sphère neuro dit souvent psychanalyse. Hein, et donc on aborde cette rentrée avec les liens entre la mythologie et la psychanalyse. Si vous venez d'arriver, l'émission sera disponible en podcast à partir de dimanche 18h et vous pourrez avoir cet exemple d'Icare pour replonger un petit peu dans la mythologie et les contes, les histoires que vous avez forcément déjà entendues mais contées donc par Célia Morès qui voulait aussi nous parler d'Oedipe et d'Électre. Célia.
Alors totalement, effectivement, cher Fabrice et chers auditeurs, puisqu'on ne peut pas parler de psychanalyse et de mythologie sans parler d'Oedipe et d'Électre. Alors, on va commencer par Oedipe. Tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe qui a tué son père pour épouser sa mère. Alors déjà, quand je disais d'ailleurs en première partie d'émission que les psychanalystes se servaient effectivement des mythes pour expliquer leurs théories, ce qu'il faut savoir, c'est que le pauvre Oedipe n'a pas fait exprès de tuer son père. Il ne savait pas, lorsqu'il a tué son père, qu'il tuait son père biologique. En fait, il a fui un oracle qui lui avait été donné donc, du côté de Corinthe, vers Thèbes. Il ne savait pas que c'est pas son destin allait le conduire vers Thèbes et tuer son père. Donc finalement, le mythe d'Oedipe, s'il nous horrifie quelque part, c'est peut-être parce que tout le monde se serait imaginé ce scénario. Alors quand je dis ça, c'est un psychanalyste italien qui le dit et j'avais assisté à une de ses conférences et effectivement il parlait de cet Oedipe-là, du fait qu'on s'est tous imaginé probablement tuer son père ou ce scénario. Donc son père, c'est pas forcément le père biologique. On peut évidemment agrandir le terme de père, ça peut être un supérieur, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Oedipe, dans Oedipe, c'est les pulsions. C'est-à-dire que finalement, tuer son père, ça peut être les pulsions, le « ça », finalement, décrit par Freud. Il faut savoir que Freud a parlé du « ça », du « moi » et du « sur-moi ». Le « moi », c'est le « nous », quoi, c'est-à-dire notre personnalité, qui est enfermée entre le « ça », les pulsions secrètes, les pulsions inconscientes, et le « sur-moi » et la morale. Et lorsqu'on lit le mythe d'Oedipe, on se rend compte que le « ça », ça serait ses pulsions, ça serait Thèbes, ça serait son père qu'il va tuer, donc Laos qu'il va tuer et il épouserait sa mère Jocaste, à savoir que Laos, son père biologique, était un sale type. À Thèbes, c'était corruption, sexualité, viol, enfin bon, agression sexuelle, c'était monnaie courante, on va dire, c'était en tous les cas tel que le mythe est décrit et tel que les psychanalystes l'utilisent, je dis bien tel que les psychanalystes l'utilisent, et du côté finalement de Corinthe, donc de son père non biologique mais de ceux qui l'ont recueilli, c'était justement l'ordre et la morale qui pourraient correspondre au surmoi. Donc la question finalement c'est est-ce que les pulsions, il ne faut pas se les apprivoiser au lieu de les enfermer, de les anéantir, parce que finalement ça ressort encore beaucoup plus fort et c'est peut-être important justement d'après les théories psychanalytiques de les apprivoiser, de les faire ressortir, de les accepter pour pouvoir éventuellement changer son destin puisque finalement peut-être que rien n'est écrit, quoique à savoir est-ce que le destin comme cela, comme ça a été le cas pour Oedipe, est-ce que ça peut tout expliquer ou pas? Ça c'est un premier point. Pourquoi parler d'Électre avec Oedipe? Parce qu'Électre, c'est le pendant, finalement, d'Oedipe, mais chez la femme. Dans les théories psychanalytiques, il faut savoir, chers auditeurs, que finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexualité. On parle beaucoup de sexualité, c'est comme ça, l'enfance, la sexualité, la construction de la sexualité. Donc là, évidemment, un psychanalyste, et on parlait tout à l'heure de Caroline, qui pourrait évidemment beaucoup plus intervenir sur ces questions-là. En tous les cas, on pourrait initier une discussion tous ensemble avec elle, pour justement avoir les deux modes de pensée. Mais c'est vrai que ça va être ça. Et pour l'enfant qui va téter sa mère, le premier objet c'est d'amour, de désir, ça va être la mère. Un garçon, lui, va faire quoi? Va vouloir probablement séduire sa mère, tuer le père, si je puis dire, en tous les cas, il va exhiber son pénis, par exemple, devant le père, etc., pour se confronter au père, parce qu'il y a un rapport entre les deux. La fille, c'est pas pareil. Et ça serait le mythe d'Électre. Alors, le mythe d'Électre a été décrit par Carl Jung, à savoir que même chez les psychanalystes, il a été assez décrié, ce mythe-là. Donc, tout le monde n'était pas d'accord, et même Freud lui-même l'a remis en question. Mais dans l'histoire de la mythologie, Électre tue sa mère parce qu'en fait, elle avait un amant et sa mère a fait tuer Agamemnon, le père d'Électre, justement pour vivre avec son amant. Donc pour se venger, Électre tue sa mère. Bon, jusque-là, on peut se dire, c'est un petit peu logique, mais les psychanalystes ont dit, non, du coup, Électre a voulu le désir du père. Donc là, en fait, quand on lit les théories psychanalytiques sur Électre, c'est désir du père, c'est essayer de séduire le père, ou encore plus, refus de la sexualité d'être une femme, puisque je ne peux pas séduire ma mère. Ce que je veux, c'est avoir un pénis comme mon père. C'est-à-dire, je vais à la course au pénis du père, je veux lui prendre son pénis, je veux un pénis. Donc, est-ce que finalement, là, j'allais dire, moi, c'est la question que je me suis posée en tant que cognitiviste, forcément, en tant que côté cerveau pragmatique et très loin de ces théories psychanalytiques. Finalement, ce qu'on entend aujourd'hui entre l'homme et la femme égale de l'homme, à savoir avec ces mouvements féministes, etc., est-ce que ça n'y a pas quelque part une part de vérité finalement décrite par les psychanalystes et notamment par Carl Jung qui disait qu'on voulait un pénis et qu'on est à la recherche de ce quelque chose qu'on n'a pas et donc on veut être l'égal comme si on se sentait finalement inférieur parce qu'il nous manque quelque chose. C'est une pensée que l'on pourrait avoir et discuter. Ça ne veut pas dire que je suis pour ni contre, bien au contraire, chers auditeurs. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce mythe-là pour expliquer certains comportements, notamment de certaines féministes, j'allais dire, aujourd'hui?
Ça va loin, ça va trop loin, hein, mesdames, messieurs. C'est dans notre cerveau. La sphère neuro revient dans un instant pour la suite de cette émission.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, la sphère neuro. Ah là, si vous n'étiez pas là pour la partie précédente, là, je vous conseille de réécouter le podcast parce qu'il y a de la réflexion dans l'air. Est-ce que vous êtes féministe, vous, Célia?
Pas vraiment. C'est-à-dire que je suis féministe comme il faut, j'allais dire. C'est que oui, je suis pour qu'une femme et un homme aient le même salaire. Aucune raison qu'à compétence égale, on soit moins bien payé. Je vois pas pourquoi.
Alors là, c'est un vrai débat. Non, je rigole.
Mais après, pour tous ces mouvements ultra-féministes, j'allais dire... Je suis pas tellement pour. Effectivement, je suis d'accord. Il va y avoir des différences, ne serait-ce que physiologiques. Je suis désolée, mais bon, mais c'est comme entre deux femmes, il va y avoir des différences. Entre deux hommes, il va y avoir des différences. Et tout le monde n'est pas capable, même je suis allée dire, fait les hommes, de pouvoir être déménageur, de porter du poids ou de pouvoir faire une course à pied. On voit là, en ce moment avec les Jeux Olympiques.
Semaines précédentes, vous allez dire, parce que vous êtes en boucle maintenant sur les Jeux Olympiques. Vous regardez, vous avez tellement adoré que vous repassez ça tout le temps. C'est un grand moment. Mais oui, vous avez raison. En tout cas, êtes-vous féministe? C'est la question qu'on peut poser aux auditeurs. Répondez-nous. Que pensez-vous? Après tout là, finalement, tout est modération. On le voit aussi dans la santé. Tout est une question d'équilibre. Hein.
Totalement, voilà.
On est tous un peu féministes, qui n'est pas pour l'égalité homme-femme, en vérité.
C'est ça l'important, mais après voilà, il faut pas pousser à l'extrême des choses qui n'ont pas lieu d'être, je pense.
Donc, on dit que tout ce qui était excessif était dérisoire.
Effectivement,
hein, c'est ça.
Je suis tout à fait d'accord.
On reprend cette émission sur la mythologie et la psychanalyse, dernière partie, et là on va parler un peu de psychiatrie avec vous, Célia.
Oui, alors pourquoi est-ce que j'ai mis la partie un petit peu psychiatrie dans la psychanalyse? Pourtant, c'est aujourd'hui un petit peu loin, parce que la plupart des concepts psychiatriques viennent aussi de la psychanalyse, ont été expliqués par les deux. Aujourd'hui, on est très psychiatrie biologique, c'est-à-dire qu'on va expliquer les maladies psychiatriques par de la biologie, par des phénomènes physiques, physiologiques et chimiques au niveau du cerveau. Mais il n'y a pas que cela, et il fut un temps où on expliquait la plupart des pathologies psychiatriques par de la psychanalyse. Alors déjà, c'est vrai qu'on parle... Premier petit point, première anecdote, si je puis dire, on parle beaucoup de troubles paniques en psychiatrie. Pourquoi panique? Tout simplement, ça nous viendrait du dieu Pan. Pourquoi P-A-N, donc du dieu Pan? Parce qu'il paraît que lorsqu'il dormait, si on avait le malheur de le réveiller, il poussait des cris tellement effroyables que finalement, ça faisait paniquer. C'est-à-dire, c'était des cris d'horreur, panique, ça provoquait une panique finalement chez les personnes qui l'avaient réveillé. Donc, de ce fait, on parle de troubles paniques, tout simplement. Ensuite, nous avons évidemment le mythe encore, en psychanalyse, de Déméter et Perséphone. Alors, ce mythe-là a été utilisé à différentes fins, selon les époques. C'est-à-dire que là, dernièrement, il y a encore des articles qui sont sortis, notamment, il s'appelle « Perséphone sur le divan ». Et effectivement, on réinterprète le mythe de Déméter et Perséphone. Donc, ça dépend qui le réinterprète. C'est pour ça que tout à l'heure, en première partie d'émission, je parlais des psychanalystes qui faisaient finalement, qui utilisaient les mythes pour étayer leur théorie, pour expliquer leur théorie. C'est un petit peu le cas aujourd'hui. Alors, Déméter et Perséphone serait un des mythes qui expliquerait l'anorexie nerveuse. Déméter, c'est la mère de Perséphone. Il faut savoir que dans le mythe, Déméter a totalement le type de la mère méchante, possessive, jalouse et plus encore d'une mère finalement décrite par les psychanalystes, à l'époque du moins, pour les personnes, les jeunes filles qui devenaient anorexiques. Perséphone serait tombée amoureuse de Hadès, donc du dieu des enfers. Alors là, c'est très flou, parce que finalement, dans le mythe, on ne sait pas si elle est réellement tombée amoureuse ou si elle n'a pas été plutôt kidnappée, violée, enlevée. C'est que, voilà, finalement, dans la plupart des récits mythologiques, on parle beaucoup, finalement, de viol, de dieux qui enlèvent des humains ou des dés, justement, qui les violent, etc., les séquestrent, mais finalement, après, soi-disant, elle tombe amoureuse ou pas. Enfin, c'est toujours très, très flou. Et donc, cette Perséphone, pour fuir sa mère finalement, pour pouvoir devenir une femme, parce que l'anorexie, d'après la théorie, d'après comment ils se servent du mythe, ça a été de dire finalement, en fait, on refuse la sexualité, on refuse notre rôle de femme. Et là, le fait d'être tombée amoureuse et même de manger des graines de grenade aux enfers serait peut-être une sorte de guérison. Perséphone irait, puisqu'elle a fui sa mère, elle accepte son statut de femme, sa destinée de femme, finalement guérit quelque part en mangeant aux enfers alors qu'elle ne mange pas lorsqu'elle est peut-être avec sa mère et que c'est l'archétype de l'anorexique. Par exemple, d'un autre côté, on nous dit qu'effectivement, pourquoi Perséphone est obligée de rester aux enfers ? Parce que toute nourriture ingurgitée mangée aux enfers fait en sorte que la personne qui a fait cela, qui a mangé aux enfers, est obligée de rester dans les enfers. Sauf que Zeus, dans sa bonté d'âme, a décidé de rendre Perséphone à sa mère, Déméter, à certains moments de l'année. Ce qui fait que Déméter vit une partie de l'année aux enfers avec Hadès, avec le dieu des enfers, et l'autre partie de l'année avec sa mère. Et donc, lorsqu'elle serait rejetée au niveau de la vie réelle, au niveau de la vie de surface, donc elle ne serait plus aux enfers, ça serait finalement, certains écrits l'interprètent comme finalement une boulimie, quelqu'un qui est boulimique nerveuse, finalement, qui peut ingurgiter les graines de grenade, donc les graines de grenade sont ingurgitées, je mange, jusqu'à me faire vomir, et du coup, la terre, les entrailles de la terre me vomissent, et je ressors au niveau de la lumière, et ça pourrait décrire quelque part les crises de boulimie nerveuse. Pour ça, qu'en préambule, je disais, c'est vraiment une interprétation, parce que parfois, il faut aller chercher loin. Et de nouveaux écrits vont chercher encore plus loin, chers auditeurs, en se servant du mythe de Déméter et de Perséphone, avec tout ce phénomène, entre guillemets, hein, si je puis dire, c'est pas le terme que je devrais utiliser, mais du MeToo, du viol, etc., la place de la femme violée, etc., pour expliquer quelque chose en disant voilà ce qui s'est passé pour Perséphone, ça remonte à cette époque-là, regardez, et pour évidemment illustrer aussi leurs propos. Donc on voit bien qu'un mythe qui va exister peut avoir plusieurs interprétations possibles, ou du moins on peut s'en servir à différentes fins pour pouvoir étayer et illustrer les propos que l'on veut soi-même illustrer dans les théories que nous avons envie de développer, qu'on soit psychanalyste ou pas psychanalyste de ce fait.
Quelle plongée, c'est incroyable, et c'est vrai que c'est des questions. Enfin, moi, je sais pas vous, chers auditeurs, mais mythologie, c'est un petit côté magique, les histoires. En fait, c'est très malsain, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est très compliqué, c'est très spécial. Mais vous dites qu'il y a différentes interprétations, vous nous avez donné quelques-unes. Est-ce qu'il y a rapidement encore d'autres interprétations et où les trouver ? Parce qu'il y a, une voix, deux, trois, mais est-ce qu'il y a des interprétations qui sont complètement différentes ? Est-ce qu'on peut tout interpréter finalement ?
Alors, je ne sais pas s'il y a plus... Moi, j'ai trouvé quelques interprétations en faisant des recherches, effectivement, bibliographiques, hein, c'est-à-dire que je me suis intéressée à mythologie, neurosciences, psychologie, donc j'ai tapé les termes comme cela sur les moteurs de recherche comme PubMed, etc., Cerninfo, enfin, toutes les moteurs qui sont moteurs scientifiques. Donc, il faut rester à la veille, faire de la veille scientifique et regarder, effectivement, s'il n'y a pas des auteurs actuels qui s'interrogent encore sur les mythes, justement les récits mythologiques, ou alors aller du côté des récits mythologiques, des historiens qui commencent à expliquer aussi les mythes. Donc moi j'avais trouvé de bons journaux, donc là plutôt vulgarisés mais très très bien faits sur justement l'Iliade et l'Odyssée, avec donc des articles étaient écrits par des chercheurs en histoire, mais en histoire mythologique, enfin de cette période-là, on va dire, qui justement étaient là pour expliquer les mythes. Alors en dehors de toute psychiatrie, etc. Mais quand même pour expliquer les comportements, les mythes et ce que cela signifiait. Parce que lorsqu'on lit vraiment les textes, à un moment donné, dans ces bouquins, j'ai eu accès, chers auditeurs, à des morceaux de textes, comme de l'Iliade et l'Odyssée, que j'avais dû lire, j'allais dire, au collège. Enfin, du moins, une partie, hein, parce que... Dans mes souvenirs, voilà, j'ai certainement pas tout lu, je pense que c'est trop, enfin, c'est des volumes importants, mais en tous les cas, c'est vrai que lorsqu'on lit le texte mère, si je puis dire, il faut parfois chercher loin. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme les poèmes de Baudelaire, etc., les Fleurs du Mal, où on va lire le texte et après, on va avoir des personnes qui vont nous expliquer ce que l'auteur a voulu dire. Et donc là, ça va être de regarder ce que les personnes ont voulu dire et ce que les auteurs de ces livres, comment les auteurs interprètent.
J'ai toujours adoré ça, moi. Ouais. Quand j'étais à l'école, au lycée, même à la fac, on interprète. Je me suis toujours dit, mais... parce que chacun, il voit ce qu'il veut. Donc, il y a des... Mais... Nous, on y voit aussi des choses. Ça m'a toujours fasciné les profs qui disent « Non, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. » Mais comment vous le savez ? Ramenez-nous Baudelaire ! Ramenez-nous pour savoir exactement ce qu'il voulait dire. On va puiser dans le fin fond du cerveau. Il y en a des choses à interpréter.
Totalement, mais c'est vrai que là, même pour certains mythes, moi j'ai trouvé deux, trois versions des mythes qui peuvent circuler. D'où ils circulent, je pourrais même pas le dire. Donc c'est vrai que bon là, les psychanalystes s'en sont servis, mais c'est vrai que les psychanalystes d'aujourd'hui ou les personnes qui travaillent sur ces écoles-là, qui sont encore sur ces écoles-là, vont se servir des mythes et par nos connaissances actuelles et par notre aussi, en dehors de nos connaissances actuelles, chers auditeurs, ça va être quoi ? Ça va être aussi nos actualités. Hein, parce qu'il y a quelques années, par exemple, le mouvement MeToo n'existait pas. Il y avait des choses qui n'existaient pas. Donc avec ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est peut-être aller rechercher dans le passé s'il n'y a pas des traces de quelque chose qui pourrait expliquer et justement illustrer nos propos, nos théories. C'est plutôt ça en fait. Et donc plus on sera en reconstruction, plus on avancera, plus il y aura de nouvelles actualités avec des horreurs ou pas des horreurs, plus on pourra se resservir des mythes à des fins différentes. Moi je pense que ça va être plutôt dans ce cadre-là, puisque si on reparle du mythe d'Œdipe, chers auditeurs, effectivement, le fils qui veut tuer son père pour épouser sa mère, oui, mais qu'en est-il des familles recomposées ? Qu'en est-il des familles monoparentales ? Et aujourd'hui, on sait bien que c'était, à l'époque, c'était d'ailleurs le psychanalyste qui a fait cette conférence-là, qui était un psychanalyste italien à laquelle j'ai pu assister, chers auditeurs, disait même, mais c'était l'image d'une famille à l'époque de Freud très patriarcale. Aujourd'hui, on n'est plus sur le même mode de famille, donc qu'en est-il ? C'est la question que lui-même a posée, donc un psychanalyste... un vieux de la vieille, si je puis dire, voilà, parce que bon, plutôt retraité que jeune, il disait, mais qu'en est-il aujourd'hui avec les nouvelles familles de ce mythe-là ? Est-ce qu'il existe encore ? Ou comment le réinterpréter de nos jours ?
Eh bien, c'est fascinant et on va continuer cette exploration. Aujourd'hui, on a vu la mythologie et la psychanalyse, donc les liens qu'il y avait entre ces deux termes. La semaine prochaine, on verra la mythologie et la psychologie.
Totalement.
Et là, c'est, on va couper encore plus petit dans la tranche. Cette émission, vous la retrouvez à partir de 18h, donc ce dimanche sur nutriradio.fr en podcast si vous venez d'arriver. Célia, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, très volontiers.
Et on sera toujours en présentiel. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
La sphère neuro, Célia Mores sur Nutriradio.